R22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma.
Merci. Oui, je ne suis pas spécialiste de Fernand Deligny, et dans la mesure où nous parlons de pédagogie active, institutionnelle et autres, il est grandement accepté et peut-être même voulu que les gens interviennent pendant la discussion, dans la mesure où d'une part je ne sais pas tout, et d'autre part ce serait quand même un peu dommage qu'il y ait une autorité sachante face à des gens qui ne savent pas. Donc oui, merci beaucoup de m'avoir invité. J'avais rencontré Fernand Deligny il y a quelques années pour faire une conférence justement en lien avec une pratique d'artiste justement d'ailleurs, comme quoi effectivement ces en dehors n'en sont pas tout à fait. Par hasard un peu, je connaissais le nom parce que pas mal d'amis, notamment dans les du côté des CMA, dans les pédagogies actives, effectivement Deligny est une figure de cet ordre-là. Et donc rencontrer ces lignes d'air. Alors, j'aimerais aborder les lignes d'air, on va se demander ce que c'est. Voilà, grosso modo, un exemple de ce que sont, parmi d'autres formes, les lignes d'air. Les lignes d'air, ce sont à la fois ces traits que vous voyez là, et ce qu'ils manifestent, des trajets. C'est à la fois un mode de notation, mais aussi un mode d'agir, mais aussi une mode d'appréhender Fernand Deligny appelle un agir. Ce sont donc à la fois des dessins et ce qu'ils manifestent, et peut-être aussi ce qui se situe entre ce qu'ils tentent de noter et ce qu'ils sont. Autant dire qu'on se situe dans un champ extrêmement complexe, à la limite sans cesse, pour eux. On n'est pas dans le champ de l'art, on n'est pas non plus dans le champ de l'antipsychiatrie, pas tout à fait. On n'est pas tout à fait dans le champ de la cartographie. On n'est pas dans le champ de la thérapie, tout à fait non plus, parce que Deligny n'était pas un thérapeute et ne se voulait pas thérapeute. Là était la différence avec Laborde notamment, ce qui a créé d'ailleurs une rupture. On va donc se demander ce que sont les lignes d'air aujourd'hui. On va tenter en tout cas d'apporter quelques réponses. Et on va les aborder, j'aimerais les aborder, non pas en tant que produit, en tant qu'outil. De mon point de vue, il me semble intéressant d'aborder la démarche de Deligny et ce dessin extraordinaire dont on se demande un peu ce qu'il effectivement représente, auquel on pourrait effectivement aborder, on pourrait l'aborder du côté de la cartographie avec effectivement les aborigènes, avec le travail de Tim Ingold par exemple, autour de cette question de la représentation de l'espace ou les représentations aussi de cartes marines aussi qu'on retrouve dans le Pacifique qui sont extraordinaires. Mais d'abord, je voudrais quand même qu'on les aborde parce qu'en tant qu'outils, elles sont des outils dans la démarche de Fernand Deligny qui est une démarche expérimentale au sens fort de l'après-guerre, c'est-à-dire une démarche en fait qui va appréhender les difficultés et qui va sans cesse se questionner en lien avec les défis qu'elle va rencontrer dans quelque chose qui est toujours de l'ordre du jalon et du transitoire. Cette ligne d'air n'est pas la seule et ce type de carte n'est pas le seul. Il y en a des dizaines selon les cas qui sont proposés, selon les défis qui sont rencontrés. Et Deligny ne va pas seulement utiliser le dessin, la carte, la cartographie ou le tracé dans sa carrière, mais bien d'autres moyens dont les lignes d'air constituent l'une des facettes. Donc je vais vous proposer d'abord de faire un retour sur la carrière, peut-être sur qui est Fernand Deligny. Qui connaît Fernand Deligny déjà maintenant là, comme ça? Voilà, on est donc dans un public normal de gens qui sont curieux, mais quand même pas omniscient. Fernand Deligny, on va d'abord voir sa pratique, on va voir d'abord qui il est, son parcours, les lignes d'air. C'est une expérience qu'il va mener avec Jacqueline, avec Gisèle Durand, avec ce qu'il appelait les présences proches dans les Cévennes, entre 1969 et 1976. Mais il est né en 1913, il est mort en 1996. Donc, autant vous dire, sa vie a été bien remplie par ailleurs. Donc, on va commencer par voir son parcours et ensuite voir effectivement quelle est sa position vis-à-vis de son travail d'éducateur ou de non-éducateur, parce que déjà, ça, il n'est pas d'accord sur ce point. Et puis voir aussi comment les lignes d'air font sens dans son parcours et dans l'ensemble des outils qu'il va développer pour, non pas soigner, mais accompagner des personnes qui ne sont pas malades, mais qui sont différentes. Et de fait, ça se nourrit dans son parcours. Voilà Fernand Deligny. Fernand Deligny, dans les Cévennes, dans les années 70, je pense peut-être à la fin des années 70, sur le troisième film qu'il a réalisé avec Victor. Donc il est né en 1913. Il est né en 1913 dans la banlieue de Lille, à Berck, je crois. Il est orphelin à 4 ans. Son père est porté disparu durant la Grande Guerre. Il est donc pupille de la nation avec une mère syndicaliste et communiste. Et de fait, déjà en soi, les questions se posent assez rapidement pour lui. C'est un immense écrivain, peut-être. Avant toute autre chose, c'est un immense poète et un immense écrivain. C'est quelqu'un qui va utiliser toutes les disciplines dites artistiques dans son travail. Et peut-être celle où il excelle vraiment, c'est la pratique poétique. Et c'est dans son interrogation et dans son malaxage du langage. Et de fait, de cette période, il va dire « étrange nom qu'un drapeau ». Parce qu'effectivement, pupille de la nation, son nom de famille était le drapeau français. Il était destiné à faire Saint-Cyr, il était destiné à devenir un nationaliste, sans doute, en tout cas quelqu'un qui porterait le drapeau. Donc il refuse d'intégrer Saint-Cyr, élève plutôt brillant, déserte les cours de Cagnes, puis ceux de la philosophie, il part à Paris, il déserte aussi les bancs de la philosophie. Il passe le plus clair de son temps, étant jeune, dans un endroit auquel on n'aurait pas idée d'aller, qui est Armentières, l'asile d'aliénés d'Armentières, dans le Nord. L'asile d'aliénés d'Armentières, c'est encore l'asile à l'ancienne. Et c'est peu de choses. C'est considéré à l'époque comme le pire de tous. Un endroit effroyable dans lequel un ami est infirmier. Un ami à lui est infirmier et de fait, du coup, Deligny va lui rendre visite et passe très rapidement le plus clair de son temps à Armentières, dans un endroit qu'il considère effroyable. Il découvre... on est autour de 1932-1934. En 1936, il découvre la méthode Freinet et est nommé, il découvre la méthode Freinet. Il passe un diplôme d'instituteur spécialisé, ce qui, je pense, est l'équivalent de l'éducateur spécialisé d'aujourd'hui. Il retourne dès 38 à Armentières, signe qu'il a trouvé là quelque chose qui le touche. Ce qui le touche là, c'est le destin de ces personnes enfermées dans cet espace et ce qu'il peut faire avec eux et non pas pour eux. Hormis 10 mois de mobilisation entre 39 et 40, il irait jusqu'à 43. Il devient donc là-bas instituteur spécialisé, donc à charge, disons, un ensemble de malades. Et déjà là, dans les démarches qu'il met en œuvre, on voit en germe les lignes d'air qu'on trouvera plus tard. Suppression des sanctions. Promeut les gardiens éducateurs. Pourquoi est-ce qu'il promeut les gardiens? On est vraiment dans un asile qui est une prison. Il faut être très clair, c'est une prison dans laquelle on enferme des gens qu'on ne souhaite pas voir dehors et parmi lesquels on trouve à la fois des gens qui ne sortiront jamais et des gens dont on peut espérer que peut-être, une fois la cure faite, ils pourraient sortir. Les gardiens sont des ouvriers. Les gardiens sont les habitants du quartier. De son point de vue, ces gardiens-là sont des gens qui ont toute leur place dans le dispositif éducatif au titre de ce territoire auquel ils appartiennent tous. Il a une lecture sociale et communiste. Il se dit très mauvais communiste. On verra plus tard qu'effectivement, s'il est communiste, c'est plus au sens d'Agamben ou de Nancy. En tout cas, il est un précurseur d'une certaine forme de communisme. Mais il a une lecture sociale et il voit là un territoire que l'asile ne fait qu'enfermer, séparer. Or, cette séparation, il ne la supporte à aucun point de vue. Donc, tous les gardiens deviennent des éducateurs pour deux raisons. Donc, à cause de cette solidarité de classe, appelons-la comme ça parce que c'est le cas, cette homogénéité territoriale et de population, de fait, des gens qui sont du même milieu, des mêmes endroits, et du fait qu'ils ne sont pas des éducateurs. Car déjà Deligny, et c'est pour ça qu'il va appliquer en partie Freinet, mais s'en séparer, Freinet ne supporte pas, c'est peut-être en ça qu'il est un peu anarchiste, une spécialisation quelconque des tâches. Il n'y a pas d'experts de l'éducation. Il n'y a que des gens qui partagent des formes de vie, qui partagent des moments et qui s'accompagnent. Il a une solidarité totale, il s'identifie peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête et il est mort, donc je ne lui poserai pas la question, mais il a une solidarité envers les malades, mais envers aussi le lumpen prolétariat de l'asile. Et évidemment, une haine farouche envers les médecins et tous les spécialistes et tous les experts qui mettent des cases. Et surtout, il organise des sorties, des jeux, séances de sport sous les bombardements. Et pas. Bon, c'est principalement lui qui en parle, mais cela dit, je veux volontiers croire qu'il l'a fait. Il écrit des pièces de théâtre. Il a une vocation d'écrivain. De toute façon, il y a là-bas les œuvres complètes extraordinaires, 1800. En fait, les œuvres complètes doivent faire 1900 pages. C'est un écrivain. Des scénarios qu'il fait jouer aux aliénés et aux gardiens. Reconstruction. Il est très marqué, c'est l'époque aussi, il faut dire, de la création de la pédagogie et de l'antipsychiatrie, on n'en est pas encore là, de la psychiatrie institutionnelle, du développement de l'éducation populaire, où effectivement la question des rôles sociaux est toujours présente. Et il écrit un livre, Pavillon 3, qui chronique justement son séjour en Armentières, qui paraît en 1944. Dès Armentières, on retrouve là effectivement alors, le refus de la fermeture, très important. Ouvrir, non pas fermer. Il le dira plus tard qu'à propos de la création de la Grande Cordée qui situera après, il l'explique, je vais vous le lire tout à l'heure. Le refus voilà, de l'autorité, de toute forme d'autorité, et l'importance des arts. Non pas seulement que dans le principe de l'art-thérapie, mais tout simplement aussi comme outil transitionnel, comme outil qui permet d'aborder quelque chose d'autre, qui permet de jouer dans la fiction, dans le jeu, quelque chose d'autre que la vérité de la maladie, du traitement. Le médecin est dans une démarche de vérité. Il dit ce que vous êtes. Dans le théâtre, vous inventez quelqu'un. Vous êtes quelqu'un d'autre et personne ne sait exactement qui est qui. Et les rôles sont évidemment rebattus. Au sortir de la guerre, il est nommé en 1946 délégué de Travail et Culture. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, dans la région de Nord-Pas-de-Calais. Travail et Culture, c'était l'une de ces associations syndicales, intersyndicales très importantes d'éducation et de culture populaire. Elle a disparu par la suite, elle a été recréée sous forme d'association traditionnelle il y a une dizaine d'années. Il rencontre là beaucoup de gens, notamment Chris Marker, notamment Vallon, Henri Vallon, Bazin et quelques autres. Il se passionne pour le cinéma. Le cinéma, il faut le dire, a une histoire commune avec aussi l'éducation populaire. Et c'est en 1947 qu'il crée ce qui va être, ce qui présage, ce qui va être l'anticipation de ce qu'on va voir après, qui sont ces tentatives des Cévennes dans les années 60. Ça s'appelle la Grande Cordée. C'est une association. En fait, c'est un réseau. C'est un réseau qui accueille déjà, ça y est, les enfants, les jeunes, pour lesquels le placement dans les asiles, le placement dans les maisons de correction, le placement dans les maisons de jeunesse, ne donne aucun résultat. À côté, comme des chemins de traverse, il crée la Grande Cordée, qui est en fait un grand réseau de ce qu'il appelle des vagabonds efficaces. Il a le sens de la formule, c'est une évidence. Il est très très fort. Mais ça joue beaucoup, hein. C'est très important de le comprendre parce que justement dans cette capacité à la narration se situe son au-delà de la cure aussi, ou cette capacité à porter autre chose. Une tentative de prise en charge en cure libre d'adolescents caractériels, délinquants et psychotiques. Et quand on dit « et », c'est parce que lui, il le voit comme un ensemble. Il est bien le seul à prendre les délinquants psychotiques, parce que n'ayant aucune chance d'être soigné, en tout cas du point de vue de l'institution, et qui ne semblait pas vouloir s'améliorer par un placement ou quoi que ce soit, y compris en service psychiatrique. Il s'appuie sur les réseaux des auberges de jeunesse, qui à l'époque étaient tout autre chose qu'aujourd'hui, qui sont un réseau très très important, comme les foyers de jeunes travailleurs d'accueil. Et il explique à ce propos en 1955, dans un texte sur de la revue Éducation, « La création de cette structure se nourrit... » Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi. Lorsqu'un enfant est pris, alors vous voyez, vous allez tout de suite comprendre cette manière de considérer les choses. Lorsqu'un enfant est pris dans l'engrenage asilaire, il s'y fait une mentalité qui vient à la longue, après des années, justifier le placement dont il a été l'objet. Placer un enfant. Il y a des mots qui sont d'un usage si courant qu'on n'en entend plus ni le son ni le ton. Meubles, domestiques, café. Donc, quand un enfant ou un adolescent est mal parti, déséquilibré, déficient, asocial, etc., etc., il est placé. Vous voyez la radicalité de ce refus ? Ce ne sont pas des objets. On les a placés là. Et pourquoi est-ce qu'on l'a placé là ? Parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire pourquoi ? Parce qu'ils sont irrécupérables ? Ou parce que cette société n'est pas adaptée à eux ? Et il est dans ce questionnement permanent. Il s'agit pour la Grande Cordée d'aider ses membres les plus jeunes à trouver quand même, de force, leur place dans une société sans perspective d'ensemble, de les aider à penser eux-mêmes leur avenir, à en décider malgré tout, avec leurs propres mains, avec leur propre tête. Voyez le clivage d'origine qui va faire naître cette tentative extraordinaire dans les Cévennes, qui est de dire il y a une différence. Enfin, l'éducation est basée sur, peut avoir deux principes. L'idée d'un commun entre les adultes et les enfants et le fait que les enfants vont grandir et qu'on va les accompagner. Mais l'idée aussi qu'il y a une différence fondamentale entre un jeune et un adulte, entre une personne et une autre. Et que de ce fait, seule cette personne-là a en elle les ressorts d'évoluer. Parce que rien ne sert d'appliquer de force à quelqu'un d'autre un modèle qui n'est pas le sien, une réalité, un mode de croissance qui n'est pas le sien. La grande cordée, du coup, va mettre au service de ces jeunes des professionnels, des patrons, des instituteurs, voire des prêtres à la rigueur, des gens qui vont se réunir dans un lieu donné. L'adolescent, le jeune, va être accueilli à Paris dans la structure de la grande cordée, être aidé à dire ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire ? Et à ce moment-là, il y a un jeu qui apparaît, qui avait disparu dans l'asile. Qu'est-ce que je veux faire ? Et la grande cordée va travailler à trouver un contexte. Un contexte, un milieu dans lequel il va pouvoir réaliser ce qu'il veut être. Ce qu'il est déjà, au fond. Donc vous voyez combien il y a là une inversion complète du principe où le soignant, l'encadrant, suit une personne plutôt qu'il ne lui fournit un cadre. Du coup, voilà, la grande cordée va tenter de créer un réseau très localisé de personnes qui vont répondre à la demande aussi précise que possible d'un enfant qui souhaite faire quelque chose. Ça peut être élever des chevaux, ça peut être devenir charcutier traiteur, ça peut être devenir ouvrier, ça peut être devenir cosmonaute à la rigueur. Il n'y a aucune limite, à part matérielle évidemment, à ce genre de démarche. La difficulté est de trouver des gens qui accueillent, des gens qui soient capables de se mettre en position d'accueillir, c'est-à-dire d'accepter d'abord qui est la personne et ensuite de l'accompagner. Donc voilà, de cette démarche thérapeutique, on arrive très rapidement à une démarche d'accompagnement et de suivi, qui sont les suivis justement déjà de ces lignes d'air, c'est-à-dire suivre à la trace l'évolution d'un gamin pour comprendre qui il est en train de devenir et du coup être là quand il en a besoin. Important aussi de signaler que la question de la parole est présente dès le début, à la fois en termes de langage et en termes politiques. Il y a dans la grande cordée un principe, chaque semaine, tout le monde se réunit, le groupe, le collectif, et écrit une lettre, fait un bilan de l'activité, je crois que c'était de la semaine, hein, je ne me souviens plus bien, je crois que c'est chaque semaine, fait un bilan et écrit une lettre à la grande cordée sur là où on en est. Ne tais jamais les critiques, ne tais jamais les problèmes, au contraire, les mets en avant. Et ce qui est très important, c'est que cette lettre est écrite par l'enfant, par le gamin, qui se fait le porte-parole de ce groupe auquel il prend part. Il est membre du collectif qui va le faire changer aussi. Il n'est pas l'objet, il est le sujet. Donc cette question de la parole chez Deligny est très présente. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, la parole n'appartient à personne. On ne peut pas prendre la parole. Cette parole, elle est propre. Première étape finie. Est-ce que vous avez des questions ? On est en 1947. Le réseau se développe et comme d'habitude avec Deligny, vous imaginez qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel ? Ça n'a pas été facile. Ça demande énormément aux personnes et de fait, le réseau a trouvé des gens pour les aider, mais il y a eu un très gros problème, c'est que la Sécurité sociale a refusé de prendre en charge d'abord les gamins qui travaillaient. Et de fait, du coup, le problème de la ressource s'est posé très vite. Et comme le dit Deligny lui-même, trouver des gens en capacité d'accueillir, c'est très difficile. Je trouve ça très beau, ça pourrait être lu à la lumière de théories comme le CARE, par exemple, où on est capable d'accueillir quelque chose, c'est une capacité active. On la comprend, nous, comme passive, mais pour Deligny, c'est actif. Il faut se mettre en capacité de suivre et non pas être passif dans un mouvement. Donc, en 50-47, il le crée. Des difficultés se présentent assez rapidement. La grande cordée existe jusqu'en 54-55. En 54, Deligny quitte Paris. Et en 55, la grande cordée s'installe dans différents coins de campagne où ils sont accueillis avec des gens. Donc là, il y a une bande qui se crée de toutes sortes et qui accompagne des jeunes individus psychotiques, délinquants, etc., dans ce qui est une espèce d'échappée belle quelque part dans la campagne française et dans les paysages magnifiques de la Haute-Loire, des Cévennes, du Loiret, et où en fait la grande cordée va s'échapper de Paris, cesser d'être l'institution qu'elle essayait d'être, c'est-à-dire centrale avec un réseau qui tourne, avec un réseau qui rayonne, local toujours cependant, un peu à la manière des abbayes. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire du monastère chez Deligny, dans le sens où il y a une maison mère et ensuite il y a les SEM, La règle est SEM, mais chacune est indépendante. Et du coup, en 54-55, cette histoire va prendre relativement fin. C'est-à-dire qu'ils vont partir de Paris, la Grande Cordée n'aura plus d'autre existence que ce petit groupe de personnes qui accompagnent, notamment Yves, le personnage de son premier film, de leur premier film, Le Moindre Geste. Des personnes qu'ils accompagnent et qu'ils suivent dans la campagne. Ce qui est intéressant de signaler, c'est que on a là déjà donc les prémices de ce qu'on verra tout à l'heure, ce que sont les tentatives, la tentative dans les Cévennes. On a là aussi la mise en place d'un ensemble d'outils. L'écriture, le scénario, le travail sur la fiction en était un. Le cinéma va en devenir un aussi. Dès 1947, et en 1955, il en parle à propos d'un film qui ne sera jamais réalisé, Deligny, qui adore le cinéma, qui est un cinéphile, et aussi, je le dis ça parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, un théoricien du cinéma extraordinaire, un très beau théoricien du cinéma qui a travaillé avec Truffaut, avec Godard, avec Marker, qui fait partie d'une génération d'un cinéma du réel, dont il est l'un des représentants les plus intéressants et qui a écrit un livre là-dessus qui est passionnant. Il travaille avec le cinéma. Il veut travailler avec le cinéma. Il veut fournir à tous les gamins qui vont être accueillis dans ce qu'il appelle donc ces séjours d'essai. Je vous ai pas dit, c'est séjours d'essai. L'expérimental, toujours l'expérimentation. Les contextes dans lesquels les gamins sont accueillis sont des séjours d'essai. On essaie. Et comme il dit, si ça ne marche pas, on essaie ailleurs. Ce n'est pas grave. Ils pourront toujours essayer avec un autre. Il veut travailler avec des caméras. Il a l'idée de faire un film où chacun des séjours d'essai filmerait ce qu'il fait et où chacun des gamins partirait avec une caméra. C'est financièrement impossible. Mais c'est vraiment quelque chose de très fort en lui. Il explique avec la caméra, vous allez voir, parce que c'est vraiment, là encore, le travail sur les lignes d'air est proche de cette idée du cinéma. Avec les caméras, le monde le regarde. Le monde des autres, qui n'avaient rien à faire d'eux, et seront tout à l'heure les témoins de ce qu'ils font chaque jour. Mise en scène ? Non. Mise en vue. Mise au clair. Mise au public. Il y a de la revanche, quand même, dans ces paroles. On va leur montrer qui on est. Vous allez leur montrer qui vous êtes par le biais de la caméra. Pourquoi par le biais de la caméra ? D'abord, c'est important de signaler, et c'est tout aussi vrai pour le dessin, puisque c'est quand même du dessin, les cartes qu'ils vont réaliser, qu'ils ne pensent le cinéma qu'en termes de dispositif. Ils ne pensent pas en termes d'auteur, ils ne pensent pas en termes de style, mais en tant que dispositif technique de mise en image et d'appropriation de cette capacité à faire de l'image. Et pourquoi est-ce que l'image, plutôt que l'écrit, par exemple, d'après vous, pourquoi est-ce que c'est si important, le cinéma, dans un cadre de ce genre, pour ces gamins-là, qui se donnent lieu à un autre film ?
C'est aussi un geste qui, culturellement, impacte moins que la langue et que l'écriture. Là, on est dans quelque chose qui est vraiment le corps.
Exactement. Et on est dans une illusion, peut-être, du cinéma. Dans le sens où il a d'un côté une conception du langage qui est extrêmement distanciée, où le langage coupe. Il est nourri par le surréalisme, hein, je vous dis ça, parce que on est là dans une démarche que les surréalistes auraient, mais alors, applaudi des quatre mains. D'ailleurs, je crois que Perret, notamment, avait aussi soutenu cette démarche-là. Il y a effectivement l'idée que l'image, elle instille un rapport sauvage. Elle est directe. On peut se filmer sans parler. Et on peut se filmer malgré tout. On peut montrer ce qui n'est pas regardable. C'est quand même important. On ne peut pas écrire et décrire aussi facilement les choses. Donc effectivement, il y a ce truc de se mettre en image et quelque part de forcer à regarder. Vous voyez ce que je veux dire ? On va vous forcer à regarder. On va communiquer. Et puis, il y a évidemment cette idée que le cinéma, c'est l'art des masses. C'est l'art vers tous. C'est la grande diffusion. Mais effectivement, dès cette époque-là, la question du langage va se poser. La question de la parole a toujours été présente dans un terme à la fois politique, je vous le disais, et langagier. Mais la question de la langue, parce que l'institution ne supporte pas l'absence de langage, c'est dans le même texte. Il faut du langage quelque part où on est perdu. Ils tiennent à cette caractéristique du langage qui maintient l'homme singulier par rapport à l'animal. Une vieille trouille. Le cinéma, l'image, va permettre de dépasser ce cadre-là. Va permettre de dépasser cette obligation du langage dans laquelle, évidemment, sont totalement engoncés, perdus, les gamins, psychotiques notamment, ou autistes qu'il va rencontrer par la suite. Ils ne peuvent pas parler. On leur demande de parler, ils ne peuvent pas parler. Et comme ils ne parlent pas bien, ils sont devenus des débiles, c'est-à-dire des gens sans existence, sans raison. Donc, le cinéma va devenir véritablement un outil, et alors, je voudrais dire un outil à triple niveau. C'est-à-dire, c'est d'abord l'outil de se donner à voir, de se manifester. C'est Carlos Ginzburg, un super historien, qui dit la différence. Il y a une différence. il y a l'anormalité et il y a l'anomalie. Et des paysans dont il parle dans ses écrits, il dit qu'ils sont, c'est des personnalités anomales. C'est-à-dire qu'ils ne sont des anomalies. Ils ne sont pas anormales. La question n'est pas de ces gens-là. Ils sont une anomalie. Eh bien, les personnages que vont devenir les enfants qu'il suit sont des anomalies de son point de vue. Il n'y a pas de normes à poser, ils sont différents. Et j'en parlais avec le studio. La question est toujours de savoir, ils existent en tant que tels, on ne peut faire autre chose que de suivre ce qu'ils font. On ne peut pas savoir pourquoi ils le font. On ne peut juste regarder. Et du coup, la caméra va devenir donc un outil pour eux se communiquer, va devenir un outil aussi pour les suivants, les suiveurs, ceux qui ne sont pas des soignants, parce qu'il n'y a rien à soigner. La caméra va leur permettre d'aborder ces gestes, ces personnes. Elle devient un outil transitoire, vous voyez ce que je veux dire ? Une distance nécessaire, mais qui permet de raccorder aussi. Si on ne peut pas se parler, on peut au moins se montrer. On peut au moins se filmer. On peut se mettre en scène. Parce qu'il n'y a jamais... Je pense que chez Deligny, il y a toujours l'idée qu'il joue quand même. Et on joue ensemble. Il se montre. Et en troisième lieu, y a évidemment le fait de présenter l'ensemble, le dispositif, un phénomène, une capacité à communiquer ce qui se fait et qui est de toute façon toujours unique. On ne peut pas refaire deux fois la chose parce que chacun est différent. Mais le cinéma le permet. Et du coup, dans cette échappée belle de Paris, de la Grande Cordée, ils vont tourner un film, ou plutôt tourner des rushs. Ça donnera le moindre geste. Entre 62 et 63, alors peut-être je vais faire échappe, parce qu'on ne verra pas le film autrement. Je vais vous montrer un extrait. Ils vont tourner le moindre geste. Le moindre geste étant aussi... non, je pars du mauvais côté. Voilà. Étant aussi le nom d'un très beau livre qu'il a fait en 75, qui parle de toutes ces initiatives. Et en gros, 9 mois de tournage, les acteurs, ce sont les personnes. Il y a Robert, Annie, Yves, Guignard, qui est la personne qu'on voit là à l'écran, 25 ans, le héros du film. José Mananti, qui fait le film et qui n'a jamais filmé et qui est la réalisatrice. Il y a Fernand Deligny, qui n'apparaît jamais, mais qui est présent. Le film est muet, mais le son qu'on entend peut-être là, je ne sais pas si on l'entend. Oui, je vais vous montrer le générique d'abord. Le son qu'on entend, c'est le son qui est enregistré par ailleurs. La voix ne colle jamais tout à fait à l'image, mais de manière à libérer aussi sans doute l'image et le son de leurs obligations les uns vers les autres. Le moindre geste, ce n'est pas un film qui devait être un film. Il ne sera montré que plus tard. Il va être monté qu'en 68-69, présenté en 71 à Cannes et gagner un prix. Il dure 1h35. Et voilà ce qu'il dit au début, Fernand Deligny. On va entendre sa voix.
Allez, Yves. Vas-y.
Bien. Ça, c'est la voix d'Yves. Yves, le héros du film.
Voilà.
Till Reschken, ça avait utilisé d'ailleurs.
Voilà, c'est gros.
Oh, merde. Même pour,
ici, Deligny.
Ici, Deligny.
Cette espèce de bonhomme, c'est la main d'un garçon de 25 ans qui l'a tracé. Débile, profond, disent les experts. Tel il est dans le moindre geste, tel il est dans la vie de tous les jours que nous menons ensemble depuis 10 ans et plus. Tel il est, pour nous, source intarissable de rire aux larmes, quoi qu'il arrive. Et, dans ce film comme dans la vie très quotidienne, porteur d'une parole dont je certifie qu'elle n'est pas la mienne. Peut-on dire qu'elle soit la sienne ? Mais pourquoi faudrait-il que la parole appartienne à quelqu'un, même si ce quelqu'un la prend ?
Le programme est là. Vous avez là Deligny. D'abord cette voix, cette manière de parler, il est assez extraordinaire. La parole. Le bonhomme, il est là. Le bonhomme, il trace. C'est ce qu'il appelle le tracé. Il n'appelle pas ça le dessin, parce que le dessin a une polysémie possible avec le projet. Yves, vous l'avez entendu. Et sa parole est la sienne. Elle n'est pas à nous. Est-ce qu'elle est à lui ? Et quelle est-elle ? Qu'est-ce qu'elle dit et comment l'écouter ? Mais une parole, ça ne se prend pas. Voilà, tout est là. Tout est là et le film va... Alors, le film est assez drôle, c'est un road movie. dont la scénario tient en 4 lignes et dont la partie scénarisée tient en 5 minutes. Le film dure 1h40. Le film dit « Yves et Robert s'échappent de l'asile. Ils partent dans la campagne. Robert tombe dans un trou. Yves continue tout seul. La fille d'un paysan le ramène à l'asile. » Ça, c'est le scénario, écrit a posteriori. Et le film, mais le scénario ne tient que quelques minutes, parce que, vous connaissez le burlesque ? Comment fonctionne le comique du burlesque ? Tout va bien. Hop, on sort de ce qu'il devrait faire. On le récupère de manière inattendue. Vous voyez ? Je glisse et je me récupère. Le comique naît à la fois de l'absurde qui s'introduit, puis de la récupération comme une pirouette, souvent physique, vers le cours du scénario. Et de fait, les films burlesques sont des sorties de route et rentrées de route perpétuelles. Le faire, car c'est comme ça qu'on l'agir, tel que Deligny va le caractériser, c'est-à-dire cette manière d'être particulière, ne connaît pas le scénario et ne connaît pas la routine. Et le film va se dissoudre dans les actes de Yves. Donc voici un exemple. Le film dure une... Oh, ça va être moche, mais oui. Non, non, ça va encore. Voilà un agir. L'agir, c'est la manière dont Deligny caractérise la manière de faire, d'être, par les gestes des autistes. Yves est autiste. Il l'a trouvé en 58, dans un asile, dans un coin. Il l'avait laissé là et il mourait de faim, a priori. Il était dans un état lamentable. Et il l'a pris avec lui. Et depuis, ils passent leur temps ensemble. Ils vivent ensemble. Et José Mananti, qui accompagne Deligny et la Grande Cordée, qui est psychanalyste, le filme. Les lignes d'air auront le même usage quelque part. C'est celui, enfin, les cartographies des lignes d'air auront le même usage. C'est celui de porter l'attention sur ce qui se fait. Le film est une suite ininterrompue de ces choses-là. Là, son agir s'est interrompu. On dit en général que c'est le fait d'un simulacre. Quelque chose a attiré son attention et a fait cesser cet acte qui n'a pas de but, mais qui est sa manière d'être. En tout cas, la seule qui nous soit accessible. Et il regarde dans le ruisseau. Ça dure 1h35. Plein de moments de ce genre.
Ça, c'est des actions documentaires qui ont été filmées
Non, c'est ni l'un ni l'autre. Ce sont des bandes qui ont été filmées, qui n'avaient pas vocation à devenir un film, a priori, et qui le sont devenues plus tard.
Donc c'est des annotations de ce que les gens faisaient dans leur quotidien. C'est pas des choses qui étaient... les gens se disaient pas, on est filmé, donc on fait cette action-là.
Excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que, il semble, à voir le film, Yves joue quand même. Il voit la caméra et il joue. Mais je ne sais pas. Ils ne savent pas et ils n'essaient de ne pas décider, justement. Le fait est que José Mananti l'accompagnait et le filmait. Elle le filmait et elle filmait ce qui lui attirait l'œil. C'est-à-dire la caméra devenait l'outil qui permettait de voir ce qu'il faisait un peu mieux. Et ces rushs, ils les ont accumulés. Accumulé. Il y avait l'idée de faire un film. Au début, il y a eu l'idée... Alors, c'est intéressant. Au début, il y a eu l'idée de faire un film et il voulait le proposer à Chris Marker, le très grand. Chris Marker n'était pas disponible. Ça l'intéressait, mais il n'était pas disponible. Qu'à cela ne tienne. Truffaut va faire l'affaire. Il demande à Truffaut, parce que vous avez vu les 400 coups, la fin, c'est Deligny qui l'a proposé, en fait. Truffaut ne savait pas comment finir, et c'est typique, hein. Cette échappée belle, cette mer et cette errance, il dit, c'est ça comme ça qu'il faut finir. Truffaut, du coup, qui aime beaucoup le travail de Deligny, qui le connaît bien, lui envoie ses opérateurs et lui envoie la bande nécessaire. Mais Truffaut commence à vraiment, vraiment envahir un petit peu. C'est-à-dire, en gros, il a une idée de ce qu'il faut faire. Il voit ce qu'on pourrait faire. Et là, Denis Lény dit non. Il le vire. Enfin, il dit non, on ne le fera pas. Il garde les bandes, quand même. Mais Truffaut sort du truc. Il voulait faire un film, mais ça n'était pas satisfaisant. Je crois qu'il y a vraiment un truc de cet entre-deux-là, de trouver cet entre-deux. Ce n'est pas documentaire, c'est des notations, c'est des annotations, mais c'est aussi, je pense, une caméra qui tourne très peu, enfin, c'est des bandes très rapides, mais c'est vraiment quelque chose d'assez machinal au final. La caméra suit le geste, on le voit la corde, et puis d'un coup, elle suit la corde. Il va vers les cailloux, parce qu'il y a des usines, il y a une usine où il casse le roc, et du coup, la caméra filme aussi les rocs en train de se faire casser. On est dans l'entre-deux, en fait. Ça n'est pas scénarisé, c'est sans doute joué, mais pas pour un film.
Et la personne qui tient la caméra, c'est pas un autiste.
C'est une psychanalyste qui suit Yves avec lui. La méthode de Deligny avec cette étape de la grande cordée, elle n'est pas psychanalyste pour le psychanalyser, elle est psychanalyste pour l'accompagner dans sa vie quotidienne. Et ils vivent ensemble, ils dorment ensemble, et ils font tout ensemble. Et là, ce sont les lignes d'air, justement, ce sont les errances, l'air de Yves, c'est déjà le cas là, qu'on aborde par le biais de la caméra. Mais seule la caméra permet de capter, sans juger, ce geste. Et ce geste prend sens, mais il prend un sens non conventionnel. Et du coup, le film est refait par la suite. Il est retravaillé par la suite avec ce scénario de road movie, parce que Deligny adore John Wayne. Il adore Ford, en fait, il adore les westerns. Et du coup, il a l'idée, parce qu'on est déjà dans cette idée-là, les lignes d'air sont ça, c'est un western, en fait. On va faire un western, on va faire un road movie dans cette région, dans ce paysage. Ce qui est important de signaler aussi, c'est le paysage, justement. Le paysage est très important. La présence des objets, l'univers de Yves, de Robert aussi, c'est un univers d'objets. C'est un univers extrêmement concret, ça c'est une certitude, où chaque objet est la sollicitation d'un geste donné, où le bruit participe sans doute pleinement aussi, et où tout ce qu'il y a autour participe. Là, ce plan est très beau, on voit bien, José Manetti a sans doute posé la caméra et elle le regarde jeter des pierres. Ça, c'est un film que vous trouvez en DVD. C'est donc le premier film de Deligny qui s'appelle Le Moindre Geste et donc qui sort en 71 mais tourné de 62 à 63. On retrouve là tout ce qui va nous intéresser par la suite. L'image, le non-jugement, suivre à la trace, comme un chasseur quelque part. 65, la grande cordée prend fin pour de bon. Plus d'argent, plus rien. Deligny traverse une période difficile. Et il est accueilli cependant, parce qu'il a un réseau important d'amis, par René Houry, à la Borde, à la clinique de la Borde. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre, je crois qu'il le connaissait un peu, mais il fait la rencontre aussi de Gattari, qui travaille à la Borde à cette époque. Et donc René Houry l'invite, parce qu'ils se connaissent, parce que c'est un petit milieu, mais qui sont très proches au niveau idéologique. Typique, à la Borde, donc, qui est une clinique dans le Loiret-Cher, une clinique, vous connaissez la Borde, la clinique de la Borde ? Un peu mieux. C'est la psychothérapie institutionnelle, donc où chacun, où le rapport soignant est justement questionné. À la Borde, un peu comme Freinet, il n'est pas contre la psychothérapie ou la psychiatrie institutionnelle, mais il refuse qu'il y ait des soignants. Du coup, typiquement, Deligny va se mettre de côté et se remettre à écrire des scénarios. Il écrit des scénarios, il crée des jeux, et à la Borde, on lui envoie les gens dont on ne veut pas. Parce que la Borde est quand même une clinique qui a vocation à soigner, dont on a vocation à sortir, et c'est même très bien d'ailleurs, mais Deligny, lui, va travailler avec des autistes. Et il va faire la rencontre de Jean-Marie. Jean-Marie, c'est le héros de ce gamin-là, le film de 75, qui est le plus connu, qui est très beau. Il va faire la rencontre de Jean-Marie, et Jean-Marie, ça va être un espèce de coup de foudre. Jean-Marie, il va le rencontrer et ils vont rester ensemble jusqu'à la fin de ses jours. En 96, Deligny meurt à Monoblet, là où on va voir la tentative, et avec Jean-Marie. Et du coup, il décide de repartir avec Jean-Marie dans les Cévennes en 67 et de s'installer à Granier. Alors, dans mon souvenir, car j'ai pu vérifier ça, c'est Qatari qui va lui mettre à disposition sa maison dans les Cévennes et lui va s'installer à côté. Deligny va reprendre le principe de la grande cordée dans les Cévennes avec Jean-Marie et spécifiquement avec des enfants autistes. Pourquoi les enfants autistes ? Pourquoi les autistes ? La raison a déjà été donnée tout à l'heure. Pas d'idée ? Très clairement, c'est ce qu'on appellerait une échappée belle, en fait. Il ne veut pas soigner. Deligny ne veut pas soigner. Il n'a pas à soigner. Il le dit, il n'est pas éducateur, il se veut accompagnateur. Et il ne veut pas soigner. Peut-être même qu'il veut se soigner, peut-être, lui aussi, parce qu'il y a une misanthropie extrêmement présente chez Deligny. Il y a une misanthropie extrêmement présente, il y a une recherche d'une communauté qui ne soit pas celle des hommes, mais celle des humains. Il y a vraiment une différence entre l'homme et l'humain. Le langage ne fait que manifester cette arrogance de l'homme, sa haine de la nature, sa haine de ce qui n'est pas comme lui. Le langage, c'est ce qui classe. Les autistes sont des tout autres. Des tout autres, c'est-à-dire des personnes dont l'être, sans doute, lui parle plus que l'aspect emprunté, terrible, des humains, des hommes qu'il rencontre. À ce propos, dans le livre Le Moindre Geste, il dit dès le début, je suis, et c'est ce qui va expliquer cette tentative qui va durer de 68 jusqu'à 96 à sa mort, je suis pour ma part persuadé que l'humanisme porte en lui-même les fascismes, totalitarismes et tous les désastres de la civilisation. Tout comme on a dit que le capitalisme portait la guerre, de la même manière que la nuée porte l'orage. Tout est dit. L'autiste est tout autre et il est donc humain. Il est en tout cas peut-être, je pense quelque part, l'humain en nous, hors du langage, mais à la manière des surréalistes, dans le monde. Yves, là, est dans le monde. Il est dans la corde qu'il est en train de trimballer. Il est dans le cours d'eau. Il va même dedans, de toute façon. Il n'est pas de ceux qui regardent l'eau, ils voient le reflet. Il est dans ceux qui voient l'eau, qui la touchent et qui voient l'eau. En Jean-Marie, il va sans doute voir la personne avec qui il va pouvoir mener de la manière la plus radicale qui soit cette tentative de sortie de cette société dont il ne veut pas, et de création, de fondation d'une autre forme de société, de communauté.
Excuse-moi, je me demande comment peut-il, lui, avoir accès à cette partie-là que nous, on ne connaît pas. Parce qu'on n'a pas accès, on n'arrive pas à la déchiffrer. C'est les enfants autistes, que ce soit d'une manière transitoire ou définitive, il y a un moment où il n'y a pas d'accès.
Ça passe pas, effectivement.
Il n'y a pas d'accès. On ne connaît pas le passage qui permet de pénétrer et d'échanger avec ces enfants. Et lui, est-ce qu'il a les moyens d'avoir accès à cette chambre obscure à laquelle qui est constituée par...
Eh bien, non.
Et alors, comment peut-on constituer une société où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas de... C'est une question, hein, c'est alors, pas un jugement.
Non, mais on est tout à fait d'accord. Et bon, je vais leur faire un gros... C'était plus tard. Oui. Non, il n'y a pas accès. Oui, il y a accès. Pourquoi il n'y a pas accès ? Et c'est en cela qu'il va être inspirateur, notamment de Giorgio Agamben, pour la communauté qui vient. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup dedans. Il n'y a pas d'intériorité. C'est-à-dire que il peut y avoir échange, il peut y avoir communauté, mais pas sur des bases de langage. Et surtout, il ne va pas considérer... Sa démarche est proche du comportementalisme, mais où on ne dirait pas que le comportement est le fruit et le résultat d'une intériorité. Il est le fruit de ce qu'on est. Il considère que les autistes, les enfants avec qui il est, on peut vivre avec, on peut interagir. C'est ça qui est très important, c'est l'agir et pas le faire. Mais on ne peut pas échanger. Il va créer les conditions d'une vie en commun. Et il va se donner les outils qui permettront d'appréhender cet agir qui n'est pas un faire, c'est-à-dire ce faire sans but, cet être au monde sans le langage, ce présent continu, ce rapport au temps, par exemple. Il va les aborder, et ce sont justement les lignes d'air et la caméra et le cinéma et le tracé, le dessin, qui permettront, et surtout la vie en commun, qui vont permettre d'établir une base commune. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin...
Oui, non, j'écoute parce que je n'ai pas les moyens de comprendre cet univers d'autiste. J'ai côtoyé des... C'est la tentative actuelle, hein, c'est de mettre les enfants autistes avec un certain degré, avec les enfants qui ne sont pas autistes, mais on met à leur disposition un personnel spécialisé pour essayer de... Parce que vous parlez de temps. Oui, en effet, on n'est pas du tout dans la même temporalité pour un enfant autiste et un enfant qui ne l'est pas.
Non.
Mais voilà, c'est cet échange qui est impossible.
En fait,
et sur lequel, lui, il construit une société. Et alors, c'est une société dont les normes sont autres que...
Exactement.
Alors, dans ces cas-là, on ne parle pas de société.
Il parle de commun, de communauté, de radeau, notamment. Il ne parle pas...
Mais une mise en commun de quoi ?
De la vie quotidienne. C'est-à-dire, en fait, tout bêtement, à Granier, dans les Cévennes, à Monoblet, et à Granier, dans des hameaux, ils construisent... Il y a des présences proches, qui ne sont plus les vagabonds, qui sont des présences proches, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas spécialisées. C'est problématique, hein, je suis d'accord, hein, mais on va justement... Et on est là pour ça. Mais justement, il y a certaines questions auxquelles on va arriver de toute façon, parce que c'était... Mais je suis embêté, parce que c'était la fin. Mais du coup... parce que ça, même la position de Ligny est très problématique là-dedans. Ils créent des campements. Ils créent ensemble, ils sont plusieurs, une dizaine, avec jusqu'à 20 gamins qui seront envoyés là par des institutions, par la Borde, par Dolto, par quelques autres. Ils sont autonomes, au sens de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie politique aussi d'ailleurs quelque part. Ils sont autonomes et il n'y a pas de césure de fait entre les autistes et les personnes valides. Elles ne sont pas là pour les encadrer, elles sont là pour vivre avec. Et qu'est-ce qui est la base de tout ? Considère Deligny, qu'est-ce qui pourrait être cette base commune ? Faire sa vie. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas là non plus une institution, une structure, il y a la construction nécessaire et l'entretien nécessaire d'un campement. Le fait de faire la lessive, le fait de faire à manger, couper du bois, vivre, c'est très Rousseau, c'est très proche de Rousseau, vivre un peu dans l'état de nature, quelque part. C'est sa vision des choses. Il crée une communauté qui revient à une forme d'état de nature, en ne dissociant jamais dans la vie qui est autiste et qui ne l'est pas. On ne parle quasiment jamais sur ce camp. On fait ce qu'on a à faire. Et ce qu'il dit, c'est que les autistes ont un besoin absolu d'immuable. C'est leur besoin le premier, c'est l'immuable, c'est-à-dire la routine, ce qui ne change pas, ce qui revient sans cesse, non, ce qui est toujours là. Et du coup, il dit, c'est une forme d'entretien. Ils entretiennent quelque chose et ce faisant, ils entretiennent une relation. Ils entretiennent une relation et il y a des gestes qui se répondent. Parce que les autistes ne travaillent pas dans le langage, mais sont extrêmement attentifs, sont d'une sensibilité extrême, sont totalement présents dans les gestes. Donc, les autistes accompagnent le geste des valides, qui eux-mêmes accompagnent les gestes des autistes en y répondant. Il n'y a jamais véritablement d'échange, mais il y a par contre des miroirs possibles, des suivis. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça, en fait, qui va créer la base. C'est un retour à l'état de nature, quelque chose, une vie qui n'est pas dans le projet, mais qui est dans l'entretien sans cesse, dans la routine la plus complète, où on fait perdurer quelque chose, où les choses ne changent pas toutes seules, et où on fait ensemble ce qu'on va faire. Et du coup, bah, les autistes prennent part aux tâches. Ils les font eux-mêmes, à leur manière. Et là où il y a dissociation, c'est dans le film, dans le fait de filmer, et dans les lignes d'air qui sont des outils que se donnent les personnes qui sont dans le langage pour appréhender ce qu'ils considèrent quelque part comme le langage des autistes, c'est-à-dire leur gestuelle. On cherche des récurrences, on cherche des modèles, on fait une forme d'éthologie. Vous voyez ce que je veux dire ? On est là dans quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'ils se donnent des outils pour appréhender Mais dans la vie quotidienne, ils sont ensemble. Et ils répètent sans cesse. Mais de ce fait, ils rentrent dans une idée d'une certaine société traditionnelle, ancestrale. Et en cela, les lignes d'air renvoient dans notre imaginaire, parce que ça reste l'imaginaire de Deligny, un homme du XXe siècle qui a grandi avec l'industrialisation et compagnie. Ça nous parle par rapport à cet imaginaire-là. Là, voilà des images du camp. On est dans ce qu'il appelle des radeaux. Alors, je vais vous dire ce qu'il appelle un radeau. Un radeau, vous savez comment c'est fait. Il y a des troncs de bois reliés entre eux de manière assez lâche, si bien que lorsqu'on s'abatte les montagnes d'eau, l'eau passe à travers les troncs écartés. C'est par là qu'un radeau n'est pas un esquif. Autrement dit, nous ne retenons pas les questions. Notre liberté relative vient de cette structure rudimentaire dont je pense que ceux qui l'ont conçu, je veux parler du radeau, ont fait du mieux qu'ils ont pu, alors qu'ils n'étaient pas en mesure de construire une embarcation. Quand les questions s'abattent, nous ne serrons pas les rangs, nous ne joignons pas les troncs pour constituer une plateforme concertée. L'institution, ce sont les murs d'Armentières, le radeau, c'est cette structure-là mobile, qui est portée par ce qu'il appelle les liens, c'est l'attachement. Hein, tout simplement, l'attachement des humains les uns envers les autres, le quotidien. Cette routine-là, et là, ce qu'on voit, donc, c'est Jacquelin qui est l'un des deux principaux à être présent avec Deligny. Jacquelin qui est en train justement de dessiner l'une de ces cartes qu'on va voir après, ces lignes d'air, ces dessins qui font entre 50 et 70, 50 par 50, 50 par 70, et qui en gros sont des relevés, des notations. Ce camp est très simple. Il y en a plusieurs. Il y a des îlots, des radeaux qui sont dans la campagne et auxquels on accède les uns avec les autres. Jean-Marie qui est en train de prendre la broque d'eau, sans doute pour aller faire chauffer de l'eau. Vous voyez ce modèle de vie ? C'est la ZAD. Ce modèle de vie, c'est le modèle de vie très traditionnel où les pierres, où les objets sont présents. Et en gros, ils vont construire un univers matériel, extrêmement matérialiste et extrêmement concret, simple, évident, rythmé par le soleil, par les saisons et ainsi de suite. Un monde qui soit accessible aux autistes, en fait, voire qui soit autant que possible basé sur les autistes et sur les besoins humains qui, eux, sont universels. Manger, boire, se laver, la tendresse, tout ça est universel chez Deligny. Il y a un universel, il y a juste ce problème du hiatus du haut langage et au projet. Alors voilà juste deux petits extraits. Il faut que je me dépêche, moi. On n'a toujours pas vu une ligne d'air. Alors voilà les lignes d'air. Je vous le dis tout de suite, les lignes d'air sont au nombre de trois, en fait. C'est-à-dire qu'un abus peut-être de langage que de considérer qu'il n'y en a qu'une sorte. Il y a les lignes qui sont les tracés des enfants. Il y a les cartes faites en notation autour. Il y a aussi ces cartes qui sont les seules à avoir été connues pendant longtemps, qui sont celles créées pour la revue Recherche de Félix Gattari. Donc voilà radeau dans la montagne. Donc on a là monoblé. Oui, excusez-moi, j'arrête. Promis. Vous êtes plus loin que moi, en fait, c'est ça ?
Oui,
ouais, c'est ça. Voilà les radeaux. Il y avait l'idée de créer un réseau, ça n'en a jamais vraiment fait. De ce point de vue-là, de toute façon, c'est un idéaliste de premier ordre, et le degré d'engagement qu'il demande n'est pas à la portée de grand monde. De ce point de vue-là, ça ne peut pas se multiplier. Voilà Granier, voilà les radeaux et les lignes qui les amènent. Deuxième acteur, le paysage. Ça n'aurait pas été possible autrement que dans les Cévennes. Vous avez déjà été dans les Cévennes ? Vous n'avez pas remonté le temps, vous ? C'est l'Ardèche, les Cévennes, c'est ces endroits où la pierre est partout. Il s'agit de trouver un chemin, c'est pourquoi nous faisons des cartes inlassablement depuis 7 ans. Nous cherchons les chemins que l'arpentage. Et voilà. Il ne s'agit pas d'aller vers eux, de s'occuper d'eux, de s'adresser à eux. Telle n'est pas notre démarche. Et voilà, Jacquelin d'un côté, et l'un des enfants, je crois que c'est... Tanche ? Non, comment il s'appelle ? José, peut-être. L'un des gamins, ils sont jusqu'à une vingtaine dans les années 70. Est-ce qu'ils sont ensemble ? Bah, peut-être pas. Mais ils sont l'un à côté de l'autre. Et à travers les cartes, ça va leur permettre de comprendre les corrélations possibles. Le film est muet comme toujours. Et ça va leur permettre aussi de développer tout un vocabulaire, toute une manière d'aborder et de différencier aussi différentes manières de faire et d'être des autistes, de voir qu'il y a des différences notables. Ils ne sont pas toujours identiques. Il est beau, Jacques. Les années 70, quand même. Le passage des saisons, évidemment, est très important. Tout ce qui est matériel est important. On vit là, dans le paysage. D'ailleurs, s'il y a un terme qui correspond au Gligne d'Air, sans doute, ce serait le terme anglais de « scape ». Landscape, mais aussi, il y a tous les types de scape. C'est une manière de faire paysage à toutes les échelles possibles. 11:46, attendez, je vous renvoie pour voir un peu mieux, justement. On va voir justement ce Deligny.
Séquence de Deligny, A1, première.
Ah, vous avez, Godard était pas loin. Il y a fond là-dessus. Ce qu'on voit là, c'est Deligny. Et alors, ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, les cartes, il y a une salle des cartes. Là encore, l'imaginaire cartographique ancien est présent. Il y a une salle des cartes, c'est-à-dire que ces cartes-là, ce ne sont pas les enfants qui les font, ce sont bien les présences proches. Les présences proches font des cartes et les ramènent. Les cartes, les lignes d'air sont créées en 69. Pourquoi ? Pour répondre, comme toujours, à un défi. Ce défi, c'est qu'on ne peut justement pas parler. Et du coup, ils craignent... Jacquelin se trouve désemparé vis-à-vis des autistes et ils ont l'idée avec Deligny de faire ces cartes en disant si tu ne peux pas leur parler, si tu ne peux pas décrire ce qu'ils font. Vous voyez, c'est la même chose qu'avec les voyageurs, avec les explorateurs. La question du dessin est complexe parce qu'on ne voit que ce qu'on connaît déjà et on y amène nos préjugés. Si en écrit on amène les préjugés, suis leur tracé, suis-le. Et on va créer des cartes pour les suivre. Ces cartes-là sont vraiment des outils, des notations. Le soir, parce qu'évidemment, on parle quand même. Il faut bien se parler. Autrement, ce sont les présences proches qui deviennent, qui risquent, elles, pour leur santé. Elles se parlent et ils reviennent avec des cartes. Les cartes sont... Il y a un fond et il y a des calques. Les calques sont faits au quotidien, régulièrement, pour tracer et se superposent les uns aux autres. Et on discute. On discute à la fois de comment refaire les cartes mieux, c'est-à-dire qu'elles puissent permettre d'inventer le langage nécessaire à cette langue nouvelle qui sont les airs, les errances. Et d'autre part, on fait l'état de ce qui est. Ah, tu as vu ça? Oui, je me demande si ce n'est pas lié à ça. Donc ces cartes sont dans une salle et elles sont un outil véritablement d'exploration de ce quotidien autour qui, en grande partie, est étranger, autre, extraterrestre limite. Parce qu'effectivement, l'autiste, on n'y a pas accès. Donc les voilà.
Parler.
Ça, c'est ce gamin-là, de 1960.
Parler comme si c'était tout naturel. En parler de ce gamin-là et des autres qui lui ressemblent. Alors que nous avons tout fait pour nous en passer du langage. De ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant, il faut lui rendre des comptes. Mutique, ce gamin-là, alors, à quoi se fier ? À quoi se fier lorsqu'il fait défaut ? Le langage.
L'équipe réalise le film. Deligny n'est jamais à la caméra. Et là, c'est un véritable réalisateur qui vient retracer justement ce quotidien de la tentative de Granier et de cette vie. Et c'est toujours finalement un peu la même chose. Ce sont des gens qui travaillent, des gens qui font des tâches ménagères, mais qui les font avec ces gamins-là. Ils dorment ensemble, ils vivent ensemble, ils font tout ensemble.
Nous nous sommes mis à tracer.
Nous nous sommes mis à tracer. Nous nous sommes mis à tracer parce que justement, nous n'avions pas d'autre moyen de parvenir à ça. Nous nous sommes mis à tracer pour parvenir à quelque chose, à une compréhension, ou en tout cas une appréhension de ce qui n'était pas compréhensible par le langage. Et voilà comment naissent ces lignes d'air, par ce besoin-là d'appréhender ce qui n'est pas de l'ordre de l'humain, en tout cas de notre conception et de notre façon de penser. Il naît d'abord du tracé tout simplement des enfants, Voilà le tracé de Jean-Marie. Tracé n'est pas dessiné parce que je vous l'ai dit, le dessin, c'est aussi le projet. On dessine beaucoup depuis le début. Ah, dessin D-E-2-S-E-I-N. Ah bah ouais. Alors attendez, pourquoi je remonte moi alors qu'il faut que je descende? Et puis on élabore des lignes d'air. On élabore des cartes. Alors ça voilà, Jean-Marie et Fernand Deligny qui tracent, qui fait des gestes. Et puis on va surtout créer des lignes d'air. Alors je vous ai dit, il y a trois sortes de lignes d'air parce que ça, ce sont des lignes d'air qui ont été créées spécifiquement pour la revue Recherche. C'est assez tardif, en fait, qu'on a découvert les lignes d'air au sens de ces notations qui sont le très bel ouvrage que vous trouverez de l'autre côté. C'est-à-dire ces notations, elles ont été découvertes très tardivement parce que, mine de rien, leur statut n'était pas si clair. On a, Durand et Jacqueline ont créé des dessins, des lignes d'air spécifiques pour la revue Recherche de Guattari, qui a fait trois numéros sur la tentative de Monoblet. Elles ne sont pas nécessairement que des notations, elles sont aussi une manière d'abstraction. Et le fait est qu'elles vont durer de 69 à 76 pour probablement cette très bonne raison, c'est qu'elles deviennent au bout d'un moment une fin en soi. Elles sont des objets transitoires, des tentatives de notation, elles ne sont rien d'autre. En 75, voilà ce que dessine Gisèle Durand, qui permettent déjà de montrer le vocabulaire un peu. Deux cartes qui mettent en regard le faire et l'agir, le temps d'une tâche. Donc là, nous sommes dans une tâche. Les lignes d'air... Non, je vous montrerai tout à l'heure, parce que autrement, vous n'allez plus rien comprendre. Et puis, on n'a pas tant de temps que ça. Voilà. Voilà comment elles se présentent au stade le plus élémentaire. Elles ont des évolutions, et toutes les personnes dessinent des cartes. Donc, elles les dessinent différemment. Ça, justement, c'est Granier, c'est la maison où se situe... où vit Deligny. Deligny, il vit à Granier. Les autres vivent dans des îlots, dans des formes de campements. Et là, on voit justement des lignes. Ces lignes sont en fait les tracés. À gauche, ce que vous voyez là, ce sont les heures qui permettent d'établir la durée. Et ici, c'est une carte toute simple au début, avec ces trajets qui sont relayés. Ça, ce sont les trajets d'une journée qui permettent de savoir où vont les personnes. Chaque couleur correspond à un gamin. Ici, nous avons Deligny, Gisèle, Jacques, Caroline Deligny, la fille de Deligny, parce que alors, les présences proches varient, Jean-Marie et Christophe. Et voilà la première ligne d'air qui a été dessinée, la première tentative de 69. Donc là, on est dans l'île d'en bas, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. L'île d'en bas, c'est juste un petit campement dans les pentes, en bas de Granier, le hameau où se situe, où est la maison, où les cartes sont présentées. Et on voit là Jacqueline qui a dessiné, vue du ciel, on est dans une cartographie vue du ciel, le campement. Et on voit là ces flèches. La carte est accompagnée de deux calques, on est en juin 1969. On n'a pas là encore en 69 le temps qui passe. On a là les trajets des gamins. On a un abri, on a là le feu, on a là la table avec les couverts, on a là, je crois, un début d'abri, une début de cabane, on a là un muret avec la tente dans laquelle ils vivent, on a là un ruisseau, un pont et des trajets. Ces trajets sont ceux de Gaspard, de Jean-Marie au feutre rouge. Alors on va... Désolé, je ne sais pas comment on peut... Si, comme ça, voilà. Non, c'est plus pratique. Je ne suis pas habitué avec souris, moi. Oui, il faut faire ça plus traditionnellement. On a là des trajets, vous voyez, tout simples, avec des temps d'arrêt. C'est une cartographie qui ne dessine pas seulement ce qui est stable, mais aussi ce qui a lieu. C'est une tentative de cartographier un temps et des actions. Les flèches, pour l'instant, sont très simples. Ces flèches permettent de donner le sens et de permettre de dire ce qui s'est passé. Donc là, si on suit ces flèches-là, par exemple, là, on a le tracé de Jean-Marie. On voit qu'il part vers le haut. L'agir, le geste pour rien, on va les retrouver, qui va repartir ensuite vers le campement. Alors, je ne sais pas pourquoi il repart en bleu. Excusez-moi, mais je n'ai pas fait la carte. On va avoir des trajets qui vont vers la table, qui restent 10 minutes, qui se mettent debout, assis, qui repartent, des noms des personnes qui sont là quand on les rejoint. Et en fait, cette cartographie permet en fait d'élaborer tout ce qu'a agi chaque autiste, mais aussi les moments où il a interagi, les temps qu'il a fait et les types de gestes qu'il a fait. Ça se veut aussi précis que possible dans la mesure où c'est ça qui est important. Et du coup, ça veut dire que pendant ce temps-là, Jacques suit les trajets ou les remémore plus tard. Le fond est unique et les calques sont nombreux parce qu'évidemment, on va suivre différents trajets, différents moments.
Excusez-moi, je n'ai pas compris qui trace le premier calque.
Les présences. C'est-à-dire Jacqueline et Gisèle Durand, qui sont les deux personnes qui sont actives le plus souvent, créent le plan. On va en voir un deuxième qui va montrer. À leur manière, ils dessinent le territoire. Et sur cette base-là, en essayant d'être aussi précis que possible, on va dessiner ensuite, relater les trajets qu'ont fait les enfants sur une période donnée. Ça peut être une période d'une heure, comme ça peut être une période d'un mois où on va faire une synthèse.
Mais c'est pas les enfants.
Jamais. Les enfants tracent, ils ne dessinent pas. C'est très important, c'est-à-dire que c'est véritablement un outil de nous autres pour aborder l'existence de eux autres, quelque part. C'est une distance. Et c'est très important. C'est cette distance qui permet aussi, quelque part, d'élaborer quelque chose. Ça fait aussi l'expérience de la limite et de la différence. Oui, je finis. Je suis un peu long.
Peut-être pour prolonger la remarque qui a été faite tout à l'heure par rapport à cette question homme et humain, on pourrait dire aussi qu'il ouvre là, en fait, quand Denis et sa démarche ouvre aussi un espace de pensée autour de la question de la coprésence, qui pourrait toucher aussi des espèces non humaines,
oui.
Et qui sont considérées, nous on l'a accueilli ici, Vinciane Deprez ou même Bernard Rouet, comme la réflexion plutôt de se dire que on a un animal domestique, c'est plutôt on est dans une coprésence où chaque espèce s'accompagne et chaque espèce finalement fait un chemin ensemble en cassant la hiérarchie d'une normalité et en remettant aussi en cause la manière dont en réalité on raconte l'histoire des espèces, en mettant, si on est darwinien, de manière très en avant la question de l'exercice de la force et de la violence de l'autre espèce comme méthode de domination. En y opposant justement des stratégies de coopération, et notamment, ça nous montre très bien comment finalement c'est la capacité à collaborer avec d'autres espèces qui fait que certaines espèces survivent,
oui.
Et non pas le fait qu'on est plus fort qu'une. Et donc, moi je trouvais ça intéressant dans cette catégorie humaine de pouvoir penser qu'il y avait à l'intérieur même de l'humain des espèces d'identité, oui. Qui doivent apprendre à coopérer en quelque sorte et vont trouver un langage de coopération.
Pour réagir par rapport à la réaction d'Olivier, les gens peuvent vivre ensemble dans ce cadre parce qu'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'échelle de valeur, si j'ai bien entendu. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'échelle de valeur, il n'y a pas de compétition du coup. Donc voilà, la vie est.
On a créé un humain. On a intégré à la question de la protection de l'humain justement la question de la compétition comme étant ontologique, comme si l'être humain c'est ça. Et ça, c'est quand même c'est un récit qui a fait beaucoup de destruction, mais qu'on n'est pas forcément non plus, on n'est pas forcément d'adhérer à ce régime de récit, de lire avec d'autres proposent d'autres espaces de récit, mais il s'agit d'une manière aussi de raconter et de fonctionner.
Il crée les conditions de ces possibles autres récits.
Je note bien qu'ici, il y a un truc qui se radicalise, c'est-à-dire qu'en fait, au contraire de ce qui se passe dans. Tout à l'heure, on parlait d'humanisme avec des gens de bonne volonté. On n'est pas dans un nous déclaratif, on est dans un nous pratique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on a envie d'être ensemble, de vivre ensemble. Il n'y a pas de déclaration, il y a une pratique. Et c'est la pratique qui fait qu'effectivement, on est. Et ce qui échoue dans le nous dont tu parles, c'est qu'il est avant tout un programme, un dessin et une déclaration.
Une mise en commun. C'est le bien commun.
Le N.
Mais ici, le bien commun, on ne le voit pas. On ne le nomme pas, du moins.
On le vit. On ne le nomme pas, effectivement. On le vit. C'est un collectif. C'est une communauté plus qu'un collectif. C'est inverser le propos que de dire qu'on institue peut-être du collectif. On crée, on bâtit du collectif. Là, il institue une forme de nous, un commun possible, qui est commun fragile, malgré tout. Et c'est peut-être là aussi pour ça que ça dessine quelque chose de passionnant, c'est que c'est vraiment malgré tout. Et il dit, je suis pour ma... nous ne maintenons du projet que ce qui du projet nous relie. Vous voyez par là.
C'est pas un choix.
Non.
C'est pas un choix.
Non.
C'est
et c'est pas un projet.
Comme on peut pas faire autrement, eh bien, on va vivre ensemble et voilà. Il y a pas de choix.
En fait, il parle. En fait, c'est pas assez. Il y a le choix d'entamer la chose Et il y a l'attache...
C'est-à-dire qu'il y a un décideur qui a fait que, voilà, on va réunir tout ce monde ensemble, parce que on, comme il n'y a pas de place dans la société...
Pour ces gens-là.
C'est, voilà.
Pour nous, donc, y a pour nous, parce qu'au bout d'un moment, Deligny n'avait pas sa place non plus.
Enfin, oui, oui, tous ceux qui ne veulent pas de cette société... enfin, donc, on se comprend. Donc, du coup, c'est à leur insu.
Oui.
Voilà. C'est ce à quoi je voudrais arriver. C'est que c'est à leur insu.
La question complexe vis-à-vis de cela, c'est qu'effectivement, tu disais qu'il y avait véritablement une question du rapport à la...
Il y a là une expérience de la limite. Une expérience de la limite de soi, de la limite des autres, de la limite de la communauté. Il y a là les conditions qui ne sont pas nécessaires à... Les conditions ne sont pas réunies et on va les réunir malgré tout.
Les dessins sont cette manière, effectivement,
d'être coexister, chacun dans ses différences et dans ses intérêts. Les cartes sont bel et bien des objets de personnes. C'est dans les cartes que véritablement
la dissension, la différence se fait. Pour qu'au quotidien, il n'y en ait pas vraiment. C'est compliqué parce qu'ils n'ont pas vraiment nulle part où aller, effectivement. Ils ne sont pas obligés de rester. Mais ils n'ont nulle part où aller. Ça, évidemment, c'est une limite, encore une autre. Ils ne sont pas les producteurs de ce qu'on va comprendre d'eux. Mais ils sont les producteurs d'une... Mais ils acquièrent une identité qu'ils n'avaient pas auparavant. Débiles profonds qu'ils étaient, ils deviennent des arpenteurs. Ils existent par leur agir, par leur... Vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, c'est qu'on n'a pas... On a tentative de créer, par là, une communauté sans jeu. Jeu. Sans sujet, quelque part. Sans le sujet, en tout cas, bourgeois, rationnel, des Lumières. Donc, des gens qui créent une communauté, non pas parce qu'ils pensent du monde ou de la société, mais parce qu'ils les rassemblent. Ou parce qu'ils les obligent à rester ensemble. Donc, effectivement, on est là dans... une échappée belle qui est une forme de liberté, et en même temps, on retourne à l'asile quelque part, dans le sens où il n'y a guère que là.
Et on n'est pas dans l'utopie.
On n'est surtout pas dans l'utopie. On n'est surtout pas dans l'utopie, et ces cartes ne sont pas des cartes d'un territoire possible, mais bel et bien un jeu qui colle autant que... Enfin, qui joue sans cesse de coller autant que possible. On n'est pas dans l'utopie, on est au contraire dans une quotidienneté radicale, absolue, totale, qui ne dit même pas grand-chose. Et qui n'est pas généralisable.
Il y a peut-être deux choses sur lesquelles je voulais revenir. Bon, il y a une chose qui tombe un peu à l'évidence, c'est la question de la qualité graphique, quand même, parce que ce qui a fait quand même la postérité des Linder, c'est que moi j'ai le livre qui est ici aussi, c'est un très beau livre, hein, donc il y a une question un peu plastique, moi j'aimerais bien qu'on puisse peut-être traverser. Mmh. Et enfin, peut-être pour aussi rebondir sur ce qu'on vient de dire là, je trouve que ça adresse quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, à une époque où nous, dans une certaine société, on est abreuvé d'un discours dit politique, là, il y a une situation qui dit qu'on ne sait pas où est le politique d'une situation. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, au même titre que vouloir créer des espaces politiques autres, l'une des problématiques, c'est qu'en ayant une pratique, on fait naître des politiques, pas forcément à l'endroit où on le croit. Par exemple, dans le champ de l'art qui est le nôtre, moi j'ai souvent trouvé qu'il y avait une politique des sujets plutôt qu'une politique des pratiques, c'est-à-dire qu'on allait beaucoup parler de sujets politiques et avoir des pratiques très peu politiques pour en parler. Et je trouve que la question que Denis pose en revenant à la pratique, c'est comme vous dites, c'est à leur insu, mais je pense que la politique, réellement, elle est toujours un peu à l'insu. Et alors qu'on est devenu plutôt une société de discours, c'est-à-dire qu'il va nommer du politique, mais le politique, il se fait toujours à l'insu. Quand des gens vont aller faire un match de foot... Ouais, mais le vote, voilà. Ce qu'on dirait que le vote, c'est la politique. C'est peut-être bon. Là, on va rentrer sur un autre terrain. C'est compliqué.
Ouais, attention là. Voilà. Attention, porte.
Voilà, on est parti sur un truc. On va revenir peut-être.
Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a là du politique. Enfin, il y a une police, P-O-L-I-S. De toute façon, il y a une cité qui se crée avec ses règles tacites, cependant coutumières. Et c'est le coutumier qui fait la chose. Il y a une éthique aussi. L'éthique dans les cartes, c'est de ne pas représenter, mais de toujours noter. Annoter et tenter de donner une notation fidèle, mais on n'est pas dans la représentation. En tout cas, en cela, la position de Deligny peut devenir problématique quand il devient le porte-parole, lui qui prétend proposer une parole qui n'est pas la sienne et qu'il dit n'est pas la sienne. Et là, on revient aussi dans le politique de l'extérieur. Mais là, on est dans des tentatives de notation et, grosso modo, on fait fonctionner les outils contre leur fonctionnement normal. On fait de la cartographie pour parler du temps. On va suivre des gens, non pas pour savoir où ils vont, mais pour les suivre la prochaine fois. On va surtout, par exemple, là, on est dans la cartographie, les objets vont apparaître dans les cartes au gré de l'usage qu'en font les enfants. Ici, on voit apparaître une balançoire, on voit apparaître des objets. Tous ces objets-là, ce sont des objets sur lesquels, des cuillères, sur lesquelles Jean-Marie fait teinter sur les casseroles. Ces objets apparaissent parce qu'ils entrent dans notre géographie, parce que Jean-Marie en a fait usage. Donc vous voyez comment on retourne quelque part les outils, et là encore, il y a du politique dans ça. C'est d'ailleurs cette manière de retourner la représentation et la norme de représentation. Là, on a des objets pour rien, des objets pour teinter, c'est-à-dire en gros des objets qui servent pas au geste utile, justement. Le geste utile, c'est le geste du projet. Il y a le geste d'agir tout court, ce geste dont on ignore l'usage, mais qui est présent et qui se répète. Et donc, on est là dans des cartographies qui vont à l'encontre, quelque part, de cette capacité à gérer, de cette capacité à statuer sur ce qui est et ce qui n'est pas. L'immuable, c'est le matériel. La représentation et les règles doivent faire avec ce coutumier, avec cette répétition, avec ces gestes nouveaux qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas. Là, on est dans deux représentations du même endroit, et il y a effectivement, du point de vue graphique aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que chacun dessine à sa manière. Il y a des styles, et il va y avoir une évolution. On va avoir une évolution vers de plus en plus d'abstraction, et quelque chose où on va se rendre compte que le terrain va disparaître au fur et à mesure, parce que finalement, ça va devenir une géographie du coutumier. Une géographie humaine des tracés, des gens qui passent et des habitudes de cette vie-là. C'est-à-dire finalement une représentation de la communauté. C'est-à-dire quelque chose qui précède les outils qu'on peut avoir aujourd'hui, d'ailleurs pas toujours pour des bonnes raisons, mais qui sont de cartographier le geste des personnes. Donc là, on a plusieurs cartes qui vont se spécialiser de plus en plus, des outils qui vont apparaître. Là, on est au Céret, qui est l'un des principaux où ils ont vécu, où on voit qu'en blanc ont été mis les objets. Parce qu'effectivement, plutôt que le paysage, on va commencer à travailler sur les objets, parce que c'est autour des objets que tout se joue. Et on voit là aussi les lignes d'air apparaître. La ligne d'air, il y a d'un côté la ligne du coutumier, qui est la ligne de l'homme, de nous. Et la ligne d'air, c'est la ligne qui va l'accompagner ou non. C'est la ligne du gamin. Le gamin, il a sa propre ligne d'air qui peut parfois accompagner et parfois s'échapper. C'est toujours dans le différentiel entre ces deux que va se travailler aussi la compréhension. Qu'est-ce qui fait sens en commun et qu'est-ce qui ne fait pas sens? Qu'est-ce qui attire et qu'est-ce qui n'attire pas? C'est là que le commun commence à avoir lieu. C'est quand les gens, au gré de raisons qui sont les leurs propres, se rassemblent. Et donc, on ne détablit pas le commun avant, on l'établit a posteriori. Ici, il y a eu commun. On peut le refaire. De nouveau, il y a commun. Nous sommes en train d'instituer quelque chose du commun, mais nous l'avons observé. Et la ligne d'air, c'est véritablement, et la cartographie, c'est véritablement le travail de noter ce qui se fait, ce qui se dit. Et voyez comment ce tracé blanc va devenir important. C'est le tracé du coutumier. Ça va devenir quasiment le fond de la carte, parce que c'est ce coutumier-là qui devient la véritable géographie, c'est-à-dire les tracés habituels vers les lieux habituels qui sont liés à cette vie. Où on va évidemment avoir le feu, enfin le foyer, la table, l'eau pour faire la lessive, les cailloux qu'on va aller chercher, et ainsi de suite. Il y a évidemment des coutumiers de nous, qui sont généralement des tâches de l'ordre du projet. Il y a d'autres coutumiers qui n'ont pas sens pour nous, mais qui sont autour d'une certaine pierre sur laquelle on va taper, le ruisseau, le jeter des cailloux, et ainsi de suite. On fait teinter une cloche. Les raisons de le faire, on ne les connaît pas, mais ils intègrent de droit notre monde commun. Et ils en deviennent même des éléments fondamentaux, mais pour des raisons qu'on ignore. C'est en cela qu'il y a véritablement quelque chose du partage. On partage un temps et un espace sans pour autant savoir ce qu'il signifie pour l'autre. Mais on décide de ça. De ce point de vue-là, il y a eu décision à l'origine et ensuite on s'en tient à ce qui a été décidé.
Et
comment est géré
le vivre ensemble?
Comment est géré, c'est-à-dire le... Non, jamais. Jamais. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas tout à fait vrai pour les présences proches qui ont des tâches à mener, mais le but est toujours seulement d'établir le nécessaire. Au-delà, c'est du loisir en l'occurrence. pour tout, du loisir à tous les sens du terme. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a jamais de sanction. Il n'y a jamais de sanction parce que s'il y a un acte qui ne va pas, c'est qu'on peut peut-être faire autrement. Il y a par contre des inventions qui vont être faites pour, par exemple, quand l'un des enfants, notamment Robert, se met à hurler, ils vont découvrir qu'en faisant tinter une cloche, il cesse complètement. On va tâtonner. Ça n'est pas une punition. C'est exactement cette idée de vivre entre les espèces, en fait. C'est de comprendre quels sont les points d'accord, les points possibles, les points où on va vivre ensemble et les points où ça ne marchera pas. Difficile pour un berger de vivre avec un loup. Ou peut-être y a-t-il méthode pour trouver quelque chose. Ça ne dit rien des personnes, des êtres en présence. Donc il y a ça qui va se construire et les lignes d'air vont être les outils qui vont leur permettre d'établir quelque chose de l'ordre d'une éthologie de cette communauté en intégrant toujours le valide et le non-valide. Voilà, là on est à Serré, on est en 73, et on retrouve là à la fois le trajet coutumier, c'est-à-dire en fait les trajets habituels, les objets qui sont marqués quand on les bouge, cette petite flèche, ça veut dire que quelqu'un l'a fait bouger, et puis il y a ces lignes rouges qui sont les lignes d'air, et on va inventer toute une notation. Ces petites mains, ce sont les mains du fer. Il y a des gestes où on tourne en rond, et il va y avoir une véritable notation quasi musicale rythmique qui va permettre d'établir une typologie de ces gestes et de les baser les uns avec les autres, de voir ce qu'ils ont de commun. Et donc on va avoir quelque chose de quasiment musical qui va se mettre en œuvre et qui va devenir de plus en plus présent. Si je vous montre celle-là, c'est très intéressant parce que ça n'est pas nécessairement à l'échelle du campement ou de la région. C'est un scape et ça peut être le scape d'un paysage de la table qui est lié là à un geste de tintement qui s'est interrompu de la part de Jean-Marie quand Jacqueline a fait sans faire exprès, a levé la main, ce qui a créé un simulacre, ce qui fait que Jean-Marie a cessé toute activité puis l'a repris plus tard. On note ça, on note un événement et on le garde pour plus tard. On le garde dans la salle parce qu'on va y revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. Alors, pourquoi c'est mon dernier? Bon, peut-être parce que j'ai fini, mais je ne pense pas. Non. Voilà, on va avoir au fur et à mesure une abstraction progressive. Voilà une carte où a disparu le fond, ou plutôt on se rend compte que le fond devient justement ses coutumiers et des signes qui sont eux-mêmes abstraits. Ces signes ne font pas lien direct, en tout cas pas dans notre catégorie de représentation à quelque part, mais ils font lien à une situation donnée, à un trajet possible dans un espace. Ils deviennent l'espace, en fait. Là, on voit le coutumier, et là, on voit les gestes, la ligne d'air de deux gamins, dont un vient là. Ah non, c'est un seul, je pense. Non, il y en a deux. Il y en a un qui est là, et il y en a un qui arrive ici, qui font ces cercles, et qui vont vers le coutumier, c'est-à-dire les gestes, les trajets qu'ont pris les gens au fur et à mesure. Et là, on voit effectivement plusieurs gestes de prendre des cailloux. Et ici, on voit les pirouettes et les cailloux qu'on jette dans l'accompagnement, probablement, d'une personne. Donc ça devient en fait une cartographie qui ne dit plus d'un lieu, mais dit d'une situation. 76, on est sur la fin des lignes d'air et on atteint effectivement des graphismes qui sont d'une immense beauté, mais qui sont extrêmement difficiles à lire. Extrêmement abstraits. C'est l'époque où en fait ils vont arrêter de les faire justement parce que c'est Deligny qui dit... Ça n'a plus, ou c'est Jacqueline, je crois, qui dit, ça ne jouait plus ce rôle-là, en fait. Ça devenait une fin en soi, et de fait, il fallait cesser. Là, l'éthique reste toujours présente. Et ici, alors, ce sont différents cernes. C'est la représentation. Je vais vous le trouver. Et on va finir là-dessus, parce que j'ai dépassé. Je suis désolé. Les gens avant avaient dépassé, mais j'ai beaucoup plus dépassé. C'est la carte du coutumier, et tracée au pastel brun. La ligne d'air de Jean-Marie est à l'encre de Chine. À l'extrémité droite du trajet coutumier, donc on va voir ici, je pense, une passoire que Jean-Marie a coutume de prendre pour aller chercher de la salade à la cave. Un simulacre, ligne brisée noire, interrompt son balancé, qui est cette manière typique qu'on a vue tout à l'heure de rester là. Il se saisit de la passoire et emprunte le trajet coutumier, descend à la cave et trouve le cageot à légumes. Hiatus entre deux traits noirs qui couronnent le cageot par un chevêtre qui caractérise ici l'articulier du coutumier et de l'agir, c'est-à-dire du geste des valides quelque part et l'agir de l'autiste. Il va voir un jardin potager, mais qui n'existe plus alors, ce qui provoque sans doute le balancer. Il va voir un potager, mais les autistes ont une vision du temps qui est très différente. Et de fait, il n'y est plus, donc il commence un balancer. Revient par la suite. On a quatre là, cernes. Les cernes étant les limites du territoire dans lesquels on se trouve. Ces quatre cernes sont... le plus petit, la situation initiale avec Gisèle Durand, au-delà du coutumier, que Jean-Marie a franchi. Le deuxième, donc c'est le franchissement du coutumier, c'est-à-dire de là où on va d'habitude. Le troisième, c'est correspond au jardin absent qui devient lui-même un territoire dans la vision de l'autiste. Le quatrième, il est virtuel, il suggère l'espace dans lequel l'événement aurait pu se produire ailleurs et dans d'autres circonstances. Là, effectivement, vient la deuxième catégorie du travail des lignes d'air et de Deligny, qui est de devenir un laboratoire de compréhension de notre matière d'être au monde. Et là, effectivement, ces lignes d'air sont autant des recherches qui ont valeur plus générale que véritablement cet outil qui essaye sans cesse d'aller vers ce qui est et ce qui ne se comprend pas. On atteint là la limite d'une démarche et en même temps, on ouvre une autre. C'est justement cette découverte et cet intérêt de ces lignes d'air pour les philosophes tels que Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, cette communauté que je pense a vraiment beaucoup inspiré Agamben, ou ce communisme que Jean-Luc Nancy a théorisé, qui ressemble beaucoup à ça. Parmi cette communauté d'êtres très différents, on retrouve cette communauté malgré tout de notre ère postmoderne. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis une compréhension, enfin, il y a plein de choses en fait. Il y a énormément de choses. C'est assez énorme. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on arrête là. J'avais quelques points qui m'intéressaient par rapport à ça, mais effectivement, je crois qu'on les a déjà abordés. C'est ce rapport à la nature que je trouve très intéressant, ce positionnement de Deligny qui est complexe, mine de rien, parce que jamais présent, mais toujours là, et toujours en train de parler. Cette communauté, et ce que ça me rappelle surtout là, moi, mais c'était juste pour finir, on va finir là-dessus, ça me rappelle Jacobson, ça me rappelle Cage, ça me rappelle Laban, ça me rappelle toutes ces tentatives de représenter l'irreprésentable. John Cage, quand il représente le silence, il atteint les limites de son art et il devient un hors-sujet complet. D'ailleurs, il n'a pas de suivant. Jacobson, qui est un fondateur de la linguistique, a commencé son travail de linguiste en essayant de noter ce que disaient les oiseaux. Et il a inventé, en partie, il était russe au début du siècle, la linguistique. Laban, dans la représentation du geste, va finir par représenter tout autre chose. Il y a un tout autre chose auquel on parvient et auquel il parvient aussi, qui est très difficilement on ne peut pas le refaire car il est unique. Et c'est vraiment, je trouve, ce travail sur les limites qui finit par aussi avoir une valeur d'autocritique et d'auto-pensée, enfin de pensée de soi et de son outil. Et je trouve ça très intéressant et je vois la même poétique, cette tentative qui ne peut pas, à laquelle on ne peut pas parvenir à une réussite, mais qui cependant permet de renouveler complètement la vision qu'on avait des choses, le travail qu'on faisait dessus, la conception qu'on avait, emporté par cet outil qui ne peut pas devenir véritablement un outil, c'est-à-dire qui ne peut pas parvenir à ses fins. Enfin, je trouve que là-dedans, il y a véritablement une très grande poétique, mais aussi quelque chose qui amène Deligny là où je pense qu'il n'aurait pas pu vouloir aller, en fait, là où personne ne peut aller. Ses cartes font ailleurs, et du coup, je trouve ça, c'est très, très beau. Ça explique sans doute aussi que la tentative de Monoblet n'a pas eu de suite véritable au niveau de la pédagogie de l'institution. Elle continue d'exister, Jacquelin continue, mais que par contre, il a été une source d'inspiration énorme, mais parce que chacun a picoré quelque chose dans cette les limites, quoi, énorme. Voilà. Oui, c'est ça, quelque chose de cet ordre-là. Je trouve aussi qu'il y a cette idée que quand on essaie de représenter la représentable, on finit par questionner sa représentation. On change son outillage. Et c'est pas possible si on n'est pas face à cette limite. Tout comme cette communauté, malgré tout, n'était pas possible s'il n'était pas avec des autistes. S'il y avait possibilité de revenir dans le giron, ça n'avait pas de sens. Il fallait que ce soit avec des gens qui soient définitivement hors de notre giron. Et de ce point de vue-là, là encore, ça n'est pas répétable, mais c'était exemplaire, essentiel aussi, important, et ça parle à l'imaginaire de manière incroyable. Mais ça ne se répète pas. Voilà. Désolé d'avoir débordé.